Les cours du Collège de France, physique de la matière condensée, Antoine Georges.
Bon, bienvenue à ce cours, à tous et à toutes. Donc, le cours d'aujourd'hui est consacré à l'effet Hall quantique fractionnaire et le séminaire qui sera donné par Nicolas Regnault est en liaison assez directe avec ce sujet puisqu'il va nous parler des isolants de Chern fractionnaires, hein, c'est-à-dire les isolants de Chern fractionnaires sont à l'effet Hall quantique fractionnaire, ce que les isolants de Chern sont à l'effet Hall quantique entier, c'est-à-dire des états d'effet Hall quantique sans champ magnétique global. Ça a été une prédiction théorique et maintenant une réalité expérimentale également. Donc c'est ce dont va nous parler Nicolas dans le séminaire d'aujourd'hui. Et puis, lors des cours prochains, cours 5 et cours 6, on va parler un peu plus de matériaux moirés. En fait, je révise un tout petit peu mon programme qui était un peu ambitieux. Je pense que les deux cours 5 et 6 seront consacrés à des aspects du graphène twisté. Avant de vous parler des effets quantiques fractionnaires, je voudrais donner une petite précision sur ce que j'avais raconté la dernière fois sur le modèle de Holden sur réseau carré, parce que je n'avais peut-être pas été complètement clair. Vous vous souvenez que dans ce modèle, il y avait un saut plus proche voisin, et il y avait également un saut second voisin T2, et puis un saut plus proche voisin T1. Et le saut plus proche voisin T1 était arrangé de manière à créer un flux pi moins pi de manière alternée dans les différentes plaquettes du réseau carré. Alors évidemment, ça ne brise pas l'invariance par renversement du temps. T1 tout seul ne brise pas l'invariance par renversement du temps. Moins pi, c'est, ou plutôt pi, c'est 2 pi moins pi, d'accord ? Donc pi et moins pi sont équivalents. Donc celui qui brise l'invariance par renversement du temps, c'est celui-ci, d'accord ? En fait, si vous regardez ce qui se passe quand on met T2, vous créez des flux plus ou moins pi sur 2 dans les plaquettes triangulaires. Et c'est ça qui brise l'invariance par renversement du temps. Donc, le diagramme de phase qu'on obtient, donc vous souvenez que je vous avais montré que c'est quand la masse de Semenov était plus grande que 4T2 en valeur absolue, pardon, c'est l'inverse, c'était plus petite que 4T2, c'est-à-dire que quand 4T2 était plus grand que M, à ce moment-là, il y avait un nombre de Chern non nul. Et ce nombre de Chern dépend du signe de T2. Donc si je trace le diagramme des phases dans le plan T2M, c'est ça que je voulais finir de préciser parce que je crois que je n'avais pas exactement dessiné ça. J'ai les lignes M égale 4T2 quelque part comme ça. Et donc ici, vous avez des isolants triviaux. Et puis ici, vous avez un isolant de Chern avec C égale moins 1. Et un isolant de Chern avec C égale plus 1. Donc on avait passé beaucoup de temps la dernière fois à comprendre cette relation en termes de couverture de la sphère, etc. Voilà, mais je voulais juste préciser les symétries de ce modèle. Et d'ailleurs, en passant, si vous regardez l'Hamiltonien H de K dans la jauge où je l'ai écrit dans le cours de la dernière fois, c'est pas si évident de comprendre comment la variance par renversement du temps agit, à la différence de la jauge que j'avais choisie pour le modèle de Holden où c'était beaucoup plus simple. Voilà, bon, je voulais juste préciser ça, et maintenant je vais vous parler donc d'effet Hall quantique fractionnaire. Donc, évidemment, la découverte de ce phénomène, c'est cet article pionnier qui arrive peu de temps après la découverte de l'effet Hall quantique entier, en allant à des systèmes plus propres. Vous voyez qu'ici, on obtient des nouveaux plateaux, donc ici, un très beau plateau, à un facteur de remplissage 1/3, qui devient donc maintenant un facteur fractionnaire et qui ne peut plus s'expliquer par une situation dans laquelle on a un niveau de Landau complètement plein. Donc on se retrouve devant cette situation où manifestement le système est incompressible, il y a un gap, vous voyez que rho xx a un minimum là, néanmoins le niveau de Landau correspondant est partiellement rempli. Donc le plateau 1/3, ça veut dire que quand on augmente le champ, disons que par exemple on augmente le champ magnétique à partir de l'effet Hall quantique entier, de manière à avoir 3 quantums de flux par particule au lieu d'un, donc le plateau nu égale 1/3, qui correspond au cas où le nombre de quantum de flux va être égal à 3. Alors, ça c'est le papier original, et vous voyez que ça c'est un graphe qui est extrait de la conférence Nobel d'Anne Sui. Et donc vous voyez que des plateaux, il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et il y a même des plateaux qui ont des dénominateurs entiers, comme le fameux plateau à nu égale 1,5, dont je ne vais pas parler dans ce cours du tout. Je vais vous parler uniquement des... En fait, l'essentiel du cours va être tout simplement consacré au plateau de la forme 1 sur M, où M est un entier impair. Donc voilà un petit peu ce que je voudrais essayer de couvrir dans cette heure et demie. Je ne sais pas si je vais y arriver, comme d'habitude. Je vais d'abord vous parler évidemment de la fonction d'onde de Laughlin, qui est un nonsatz. Je vais essayer de vous montrer comment Laughlin est arrivé, enfin tout au moins comment on pense qu'il est arrivé à cette fonction d'onde, qui est une sorte de fonction variationnelle pour, disons, on va commencer par l'état nu égale 1 sur m, une sorte de fonction variationnelle sans paramètre variationnel. Ensuite, je vais vous parler un petit peu de pseudo-potentiel de Haldane et de modèles tronqués dans lesquels la fonction de Laughlin devient exacte. Ensuite, on va se poser la question de quelles sont les excitations dans cet état. On verra qu'il y a des excitations chargées, des excitations de quasi-particules, quasi-particules ou quasi-trous. On verra que ces excitations ont une charge fractionnaire. En utilisant un argument qui était essentiellement un argument de pompage de charge qui reprend la géométrie qu'avait introduit Laughlin pour les foils quantiques entiers. Je vais vous parler ensuite de mise en évidence expérimentale de ces charges fractionnaires, des très belles expériences du milieu des années 90 par Brune Grenaille ou Schott-Neuss. Et ensuite, on va parler un petit peu d'ordre topologique, de statistiques fractionnaires, et puis il y a également une autre excitation, qui est une excitation neutre cette fois, qu'on appelle le magnétoroton, dont j'essaierai de vous parler aussi un petit peu avec sa mise en évidence expérimentale. Donc bien entendu, on pourrait dérouler tout un cours au collège sur les foils quantiques fractionnaires, et donc le cours d'aujourd'hui, compacté en une heure et demie, ne peut être qu'une sorte d'introduction au sujet. Avant de commencer ce que je voudrais vous dire au tableau, un certain nombre d'articles de revues, alors il y en a évidemment plein, il y a des livres, etc. Je me suis servi beaucoup d'un certain nombre d'articles qui sont indiqués ici. Je voudrais en particulier souligner cette très belle série du séminaire Poincaré, qui s'appelle, je crois, Dirac Matter, et qui a de nombreux articles vraiment très très bien. J'en avais déjà cité lors des cours précédents. Et puis aussi cet article de revue... Excusez-moi, ici, il y a une faute de frappe, c'est évidemment Marc Oliver Gorbig, qui nous a malheureusement, très tristement, quitté récemment, et qui est l'auteur de cette série de conférences aux ouches, qui est vraiment une belle introduction au sujet. Et puis, je voudrais aussi remercier Nicolas Regnault, notre orateur d'aujourd'hui, pour des discussions très instructives sur le sujet. Voilà, donc je vais revenir un petit peu au contenu et on va commencer par parler de la fonction d'onde de Laughlin. Donc avant de parler de la fonction d'onde de Laughlin, je voudrais revenir à l'effet Hall quantique entier. Donc quand on avait parlé d'effet Hall quantique entier, j'avais commencé par vous faire des rappels sur les niveaux de Landau. On avait écrit les niveaux de Landau dans la jauge de Landau, on avait écrit les niveaux de Landau et les fonctions d'onde des orbitales de Landau dans la jauge symétrique. Et vous vous souvenez que dans la jauge symétrique, à des facteurs près, on peut écrire les fonctions d'onde des orbitales de Landau de la manière suivante, où je normalise Z. Alors X moins Y ou X plus Y selon les goûts, à la longueur magnétique. Alors, dans la suite du cours, je ne vais pas être forcément toujours très cohérent avec ça. Quelquefois, Z sera non normalisé, peu importe. Et M, on avait vu que M était relié à l'opérateur pi tilde qui commute avec pi dans la jauge de Landau. dans la jauge pardon, symétrique. Et donc M s'interprète comme un moment cinétique. Je vais toujours essayer cet exercice difficile d'écrire au tableau en anglais en parlant en français. Donc voilà nos fonctions d'onde, enfin un choix possible de fonctions d'onde pour les orbitales de Landau. Évidemment, toute fonction de z seulement, f de z exponentielle de moins z2 sur 4 est un état propre, on avait vu ça. Et maintenant, ce qu'on va faire, ce qu'on avait implicitement fait la dernière fois, mais je pense que je n'avais pas explicitement donné les expressions, c'est construire la fonction d'onde à n corps pour les foils quantiques entiers, basé sur ces fonctions, sur ces orbitales de Landau dans la jauge symétrique. Donc, dans les foils quantiques entiers, disons qu'on néglige les interactions, et donc on peut tout simplement écrire la fonction d'onde à n corps. Donc ça va être, je vais l'appeler 0 peut-être pour qu'il soit clair que c'est sans interaction, pour n particules. Donc cette fois, on est à nu égale 1, d'accord. Et qu'est-ce que c'est que psi n de 0? Eh bien, c'est le produit sur les i de ces facteurs-là fois un déterminant de Slater. C'est un déterminant de Slater de ces orbitales. Et je vais tout simplement remplir les orbitales du moment angulaire 0 jusqu'au moment angulaire n-1. J'ai n particules, je remplis les n état de moments angulaires les plus bas. Et donc, je multiplie ceci par un déterminant qui va être coordonnée de la particule 1 puissance 0, c'est-à-dire 1 jusqu'à coordonnée de la particule 1 puissance n-1, et puis ici, zn puissance 0, zn puissance n-1. Alors, ceux qui aiment calculer des déterminants vont reconnaître ici ce qu'on appelle un déterminant de Van der Monde. Et vous pouvez facilement prouver par récurrence que cet objet, c'est le produit pour i plus petit que j. Je suis sûr que ça a fait le délice de certains et certaines en classe prépa, de zi moins zj. Donc vous voyez que le déterminant de Slater pour n particules, il a une forme très simple et très élégante, qui est cette fonction antisymétrique, puisqu'il faut bien que la fonction antisymétrique soit antisymétrique, c'est des fermions fois le facteur, disons, de confinement des orbitales. Alors, ça se prouve bien par récurrence. Hein. Vous commencez par tout simplement 1, Z1, 1, Z2, égale Z2 moins Z1, puis ensuite vous ajoutez des lignées, des colonnes, et vous prouvez ça par récurrence. Donc une fois qu'on a compris ça, la fonction d'onde de Laughlin, donc considérons par exemple nu égale, alors je vais introduire, au cours de ce cours, je vais de temps en temps changer une notation, ça c'est pour vous garder réveillé. Donc ici je vais écrire que nu c'est deux fois un entier S. Plus tard S ça deviendra autre chose, donc restez vigilants. Donc on va écrire... nu égale 1 sur 2s, c'est ça que je veux dire. Donc l'idée de la fonction d'onde de Laughlin peut être vue simplement en prenant ce déterminant de Slater et en lui appliquant ce qu'on appelle un facteur de Jastrow. Donc ceux qui font des fonctions d'onde variationnelles ou du Monte Carlo variationnel connaissent ça très bien. C'est un facteur qui va empêcher ou défavoriser les particules d'être proches les unes des autres. Donc pourquoi on fait ça? Parce qu'il est clair que l'effet quantique fractionnaire, c'est quelque chose qui doit faire intervenir les interactions. On ne peut pas comprendre ce phénomène si on ne met pas les interactions. Et l'interaction de Coulomb, eh bien, elle défavorise les configurations où les particules sont proches les unes des autres, parce que c'est une interaction répulsive entre électrons. Donc, l'ansatz, psi Laughlin de Z1, Zn, ça va être produit pour i plus petit que j. Alors, par exemple, on peut mettre zi. Alors, en fait, je ne devrais pas écrire ça parce qu'on ne sait pas encore que nu va être 2s. de ZI moins ZJ puissance 2S, une certaine puissance paire, fois le déterminant de Slater, psi N0, de Z1, Zn. Donc ça, c'est le déterminant de Slater correspondant aux particules sans interaction, et ça, c'est un facteur qui fait s'annuler la fonction d'onde quand deux particules viennent en contact. Et vous voyez qu'ici, 2S doit clairement être entier et pair, de manière que ce facteur soit symétrique, puisque ce facteur-là assure l'antisymétrie entre fermions. Donc c'est une fonction d'onde. C'est une fonction d'onde où le seul paramètre qu'on a introduit pour l'instant, c'est cet entier pair 2S. Et la question qu'on va se poser, c'est est-ce que ça peut être une bonne fonction d'onde pour cet état des Hall quantiques fractionnaires? Et en particulier, si oui, à quel facteur de remplissage? Donc vous pourriez dire, je vais calculer la densité de particules, disons dans une boîte, avec cette fonction d'onde, en calculant l'intégrale de module de psi carré fois ce qu'il faut pour calculer la densité, et vous allez tomber sur des intégrales assez compliquées à faire. Et donc on va essayer de contourner le calcul de cette densité par un argument simple. Prenez un électron, un des électrons du système, disons le numéro K. Combien est-ce qu'il y a de facteurs ZK moins ZL, avec évidemment L différent de K, dans cette fonction d'onde? Donc vous voyez qu'il y en a N moins 1, et ils sont de la forme ZK moins ZL puissance 2S plus 1, puisque ici il y a 2S, mais il y a également un facteur ici, ZI moins ZJ, donc ça fait 2S plus 1. Et donc au total, la plus grande puissance qui existe dans ce polynôme, quand on le développe, la plus grande puissance de ZK qui existe, c'est ZK puissance N moins 1 fois 2S plus 1. Et il faut que cette puissance soit égale au nombre d'états disponibles dans mon niveau de Landau. Donc, il faut que 2S plus 1 N moins 1 soit égal à N phi, le nombre de flux dans mon système. Et donc, vous voyez, disons, pour N grand, que ça m'impose que nu, qui est N sur N phi, soit égal à 2S plus 1, à 1 sur 2S plus 1. Donc si on a une chance que cette fonction d'onde soit une bonne fonction d'onde, ça va être, par ce raisonnement très heuristique, on va en voir un meilleur dans quelques instants, ça va être pour un facteur de remplissage 1 sur 2S plus 1. Donc par exemple, dans le cas nu égale 1 tiers, disons qui est le plateau le plus simple dont on va souvent parlé dans ce cours, ce facteur ici vaut 2. Et la fonction d'onde de Laughlin pour nu égale 1 tiers, disons, elle va s'écrire si Laughlin pour 1 tiers, elle va s'écrire comme le produit pour i plus petit que j. Maintenant, je vais réunir tous les facteurs de zi moins zj puissance 3, produit sur i de l'exponentielle de moins ZI carré sur 4. Alors, on peut montrer que, effectivement, c'est bien la bonne densité, avec une très belle analogie qui a été introduite par Laughlin lui-même, qui est une analogie avec un plasma classique. Je vais rapidement vous raconter maintenant. Donc, et qui fonctionne de la manière suivante. Intéressons-nous à la norme de psi de z. Donc ça, c'est quoi? C'est le produit. Alors maintenant, je vais changer de notation, juste pour vous embêter un petit peu. Je vais écrire P égale 2S plus 1. Donc, qu'est-ce que c'est la norme? C'est le produit sur I plus petit que J de module de ZI moins ZJ, puissance de P, exponentielle de moins 1 demi, cette fois, de somme des ZIK. Et l'idée de cette analogie plasma, c'est de dire, je peux voir ce problème, plus exactement, je peux voir le problème de calculer, disons, la normalisation de cette fonction d'onde. Vous voyez que ça, ce n'est pas une intégrale évidente à faire. Je peux voir le calcul de la normalisation de cette fonction d'onde comme le calcul de la fonction de partition d'un plasma de charge. Et ça, pour faire ça, il suffit de faire apparaître ce terme comme un terme dans l'exponentielle. Et ça, ça va apparaître comme l'intégrale sur les configurations d'un poil Boltzmann exponentiel de quelque chose. Donc je peux réécrire ça comme l'intégrale des Z1, des Zn, de exponentielle d'un potentiel U de Z1, Zn. Et je peux même sortir un facteur global devant qui n'a pas beaucoup d'importance, que je vais choisir comme étant 2 sur P, qui joue, si vous voulez, le rôle d'une température de ce plasma. Cette fonction U de Z1, Zn, vous la lisez simplement ici. C'est, avec les normalisations que j'ai choisies, P sur 4. Hein, puisque P sur 4 fois 2 sur P me donne 1,5. P sur 4, somme de module carré de ZI, plus P carré, somme, alors je vais l'écrire comme ça, somme plus I plus petit que J, de moins log de ZI moins ZJ. Donc voilà l'énergie, la fonctionnelle d'énergie de mon plasma pour N charges. Alors vous voyez qu'ici, je peux considérer ce problème. Qu'est-ce que c'est que ce log? Ce log, c'est en fait une interaction de Coulomb à deux dimensions. Donc vous savez probablement que si je regarde l'équation de Poisson pour le potentiel de Coulomb, ou si vous prenez, autrement dit, la transformée de Fourier d'un sur Q carré, si vous regardez l'équation de Poisson de dimension, donc à trois dimensions, vous trouvez 1 sur R, l'interaction de Coulomb, à deux dimensions, vous trouvez moins log R. D'accord ? Donc ça, c'est un plasma de charge qui ont une charge P. Alors j'insiste, c'est ni la charge des électrons, qui est bien moins E, ni la charge des excitations qu'on verra plus tard, c'est la charge fictive de mon plasma effectif qui va me permettre de calculer la normalisation de la fonction d'onde, la densité, etc. Donc dans cette image, les particules ont une charge P, puisque vous voyez qu'ici j'ai P carré qui vient de l'interaction de deux charges entre elles. Et puis il y a un autre terme qui est ici, ça c'est donc cette interaction entre charges. Il y a un autre terme ici que vous pouvez voir comme un facteur de charge opposée, de neutralisation du background de charge, disons, qui satisfait moins laplacien de 1 quart de z carré égale moins 1 sur L2. L est la longueur magnétique qu'on peut voir comme 2 pi fois une densité de charge, je l'appelle B comme background, neutralisante. Donc ça, ça veut dire que j'ai un background neutralisant qui est moins 1 sur 2 pi L2. Et ce 1 sur 2 pi L2, au passage, c'est exactement comme L, c'est racine de H bar sur EB. c'est exactement la surface qui contient un quantum de flux. Autrement dit, ce rho B, je peux aussi l'écrire comme moins le champ magnétique divisé par le quantum de flux H sur E. Et donc la condition de neutralité de ce plasma, pour que la charge, entre guillemets, la charge effective globale du plasma soit nulle, c'est que 2πL2 fois la densité, donc c'est que si vous voulez, N, le nombre, la densité électronique fois la charge fictive des particules, plus la densité de charge du fond neutralisant soit égal à zéro. Ça, c'est la condition de neutralité. Et ça vous donne tout de suite que le facteur de remplissage nu, en utilisant ça, le facteur de remplissage nu, qui est 2πL2 fois la densité d'électrons, est égal à 1 sur P. Donc on retrouve l'équation que j'avais effacée ici, que nu est égal à 1 sur P, par cet argument qui permet de voir la normalisation et un calcul d'une manière plus générale de densité pour la fonction d'onde dans cette analogie de plasma. Alors vous voyez que ça c'est assez puissant parce que si vous essayez de calculer cette intégrale analytiquement, c'est compliqué. C'est aussi assez puissant parce qu'on sait pas mal de choses évidemment sur la physique des plasmas classiques. Donc là, on a un plasma classique à deux dimensions. Et on sait aussi qu'il va y avoir des phases solides de ce plasma classique, des phases où les charges fictives, disons, effectives de ce plasma vont vouloir cristalliser. Et ça va être le cristal de Wigner qu'on peut obtenir aussi dans d'autres régimes de remplissage ou de champ magnétique dans ce système. Donc voilà l'analogie de plasma qui permet de contourner des calculs complexes de densité et qui est une autre manière de voir que cette fonction d'onde, si elle est appelée à être une bonne fonction d'onde pour le problème, doit concerner le facteur de remplissage 1 sur P. Et vous voyez qu'une fois qu'on a dit ça, il n'y a plus aucun paramètre variationnel. Donc on peut le voir comme une fonction variationnelle, mais il n'y a plus de paramètre variationnel. Le seul paramètre variationnel, en quelque sorte, c'est la densité du système. Donc à leur cité fixée, on a juste écrit un ansatz pour la fonction d'onde. Alors, je voudrais vous montrer deux choses. Ça, c'est une figure que j'ai extrait du cours de Stephen Gervin, dont j'ai donné la référence tout à l'heure, qui montre une simulation Monte Carlo en utilisant, par exemple, cette image de plasma de la densité de particules dans un disque pour des particules tirées complètement aléatoirement, disons avec une distribution de type Poisson ici. Donc là, on tire des particules de manière aléatoire dans un disque. Et pour la fonction d'onde de Laughlin à nu égale 1 tiers. Et donc, si vous regardez attentivement ces deux choses, vous verrez qu'effectivement, les clusters ici, où il y a beaucoup de particules proches les unes des autres, eh bien, sont beaucoup moins fréquents dans cette goutte de Laughlin, avec des particules qui ont tendance à rester loin les unes des autres dans tout endroit de l'espace. Donc le facteur de Jastrow a bien fait son travail de produire une répulsion, de défavoriser les configurations où les particules sont proches les unes des autres. Alors il se trouve que cette fonction d'onde de Laughlin est une fonction d'onde qui a un excellent recouvrement avec la vraie fonction d'onde du système en présence d'une interaction de Coulomb. Je vais vous montrer dans la suite une manière peut-être de comprendre ça grâce au pseudo-potentiel de Holden. Mais ici, je vais vous montrer un calcul numérique. Donc ça, c'est un calcul qui a été fourni par Nicolas, qui est un expert de ces calculs ici, qui montre pour nu égale 1 tiers le recouvrement, ou plutôt 1 moins le recouvrement au carré, de, donc ce serait si vous voulez, l'infidélité de la fonction d'onde de Laughlin par rapport à la vraie fonction d'onde du système en présence de l'interaction de Coulomb en fonction du nombre d'électrons. Et donc sur l'échelle de gauche, vous avez cette infidélité, ici en bleu, et puis sur la courbe de droite, vous avez la dimension de l'espace de Hilbert quand on augmente le nombre d'électrons. Alors ici, je reviendrai sur ce point-là, qui a peu de particules, trois particules. Quand on augmente le nombre d'électrons, vous voyez qu'on arrive à une dimension d'espace de Hilbert qui est de l'ordre du milliard. Et vous voyez comment l'infidélité entre la fonction d'onde de Laughlin et la fonction d'onde exacte reste de l'ordre du pourcent, ou de, disons ici, 3%, même quand le nombre d'électrons devient relativement grand. Donc c'est une bonne fonction d'onde, cette ansatz inspirée est une bonne fonction d'onde pour le problème. Alors en fait, ça peut se rationaliser en regardant d'un peu plus près la structure de l'interaction de Coulomb et en introduisant ces pseudo-potentiels de Holden. Et pour faire ça, on va commencer. Et c'est toujours une bonne idée quand on fait du problème quantique à N corps. On l'a déjà vu dans pas mal de cours au cours des années précédentes. On va commencer par regarder le problème à deux particules. Donc quand on regarde le problème à deux particules, il y a évidemment un découplage entre les coordonnées du centre de masse et la coordonnée relative. Donc on va introduire la coordonnée du centre de masse qui a un facteur 2 près, va être Z1 plus Z2 et la coordonnée relative Z1 moins Z2. Et vous voyez que on est amené à considérer la fonction suivante, Z1 moins Z2 puissance petit m, Z1 plus Z2 puissance grand M fois exponentielle de moins 1 quart de module de Z1 carré plus module de Z2 carré. Petit m, c'est le moment angulaire relatif. Ah, je suis passé au français. Et puis ici, grand M, c'est le moment angulaire du centre de masse. Et en fait, ce qu'on peut montrer, c'est que cette fonction d'onde est la fonction d'onde exacte du problème à deux corps. Donc c'est la solution de l'équation H psi égale psi, l'état fondamental, pour n'importe quel potentiel central V de module de Z1 moins Z2. Alors muni de cette observation-là, on peut faire la chose suivante, on peut maintenant qu'on a les fonctions d'onde à deux particules, donc on va les appeler, on va appeler ces états petit m, grand M. Pourquoi j'ai regardé le problème à deux corps? Parce que, évidemment, si je veux regarder maintenant le problème à n corps, j'ai l'interaction de Coulomb, et il faut regarder les éléments de matrice de l'interaction de Coulomb dans les fonctions à deux corps. Dans les fonctions, dans une base de fonctions pour le problème à deux corps. Et donc on va exactement faire ça, on va regarder V petit m, qui est l'élément de matrice petit m grand M, V chapeau, donc ça c'est l'opérateur d'interaction, petit m grand M, normalisé. Et comme on considère des potentiels qui ne dépendent que de Z1 moins Z2 modules, cet objet est indépendant de M. C'est pour ça qu'ici, je l'appelle juste V petit m. Donc Donc si vous regardez la tête qu'ont ces amplitudes V petit m, en fonction de petit m, c'est dessiné ici, dans le coin à droite. Vous voyez que, donc ça c'est ce qu'on appelle les pseudo-potentiels de Alden. Il y en a un par, il y a une valeur de V par moment angulaire. Et donc vous voyez comment ce pseudo-potentiel de Alden décroît en fonction du moment angulaire relatif. Et ça c'est facile à en comprendre parce que vous vous souvenez que les orbitales z puissance m exponentielle de moins un quart de z carré, elles sont centrées autour d'une distance radiale qui est en gros L racine de 2m, donc de manière très approchée, en gros l'ordre de grandeur de Vm, c'est quelque chose qui est l'interaction prise pour Z de l'ordre de L racine de 2m. Donc on s'attend bien à ce que ce soit quelque chose qui décroisse avec M. Et maintenant qu'on a introduit ces éléments de matrice, on peut écrire l'interaction, l'opérateur d'interaction complet, donc V. Ça serait vrai pour n'importe quel potentiel central. Hein. Ce plot ici vient évidemment, a été fait avec l'interaction de Coulomb. On peut écrire V comme la somme sur tous les moments angulaires relatifs de 0 à l'infini, de la somme sur I plus petit que J, les coordonnées de mes particules, de Vm, fois le projecteur Pm, qui projette la paire d'électrons Ij sur l'état de moment angulaire relatif petit m. Donc ça, c'est l'écriture de mon interaction en utilisant ces pseudo-potentiels pour un moment angulaire relatif donné. Alors vous voyez que ça suggère de considérer le problème, disons, jouet suivant, qui consiste à tronquer l'interaction, donc on peut regarder un problème plus simple que l'interaction de Coulomb complète. Une interaction, disons, V tilde, qui consisterait à prendre Vm' égale 0 pour tous les états de moment angulaire plus grands ou égaux à m, et puis la vraie valeur pour tous les états de moment angulaire m' plus petit que m. Alors en fait, on peut montrer que la fonction d'onde de Laughlin pour nu égale 1 sur m est un état propre exact d'énergie nulle pour cette interaction tronquée. Donc V tilde, chapeau, ça fait beaucoup de... Je vais l'appeler W plutôt. Agissant sur psi L, psi Laughlin, pour nu égale 1 sur m, est égal à 0. Donc, le Hamiltonien complet, c'est juste l'interaction. Puisqu'il n'y a pas d'énergie cinétique, vous êtes dans le niveau de Landau le plus bas, le Hamiltonien complet, il est écrit là. Donc, ce que vous avez montré ici, c'est que ce qu'on a montré ici, ou peut-être pas exactement montré, mais enfin admis ici, c'est que quand on tronque l'interaction aux premières harmoniques en gardant seulement M harmonique de ce pseudo-potentiel de Holden, la fonction de onde de Laughlin est un état exact, un état fondamental exact. Alors en fait, c'est un peu plus subtil que ça, parce que n'importe quel polynôme symétrique un concert en même temps. Si je regarde n'importe quel polynôme symétrique des Z, ceci serait un polynôme symétrique des Z fois psi Laughlin, a la même propriété. Et donc, il y a plein d'états qui satisfont à cette condition. Et pour comprendre pourquoi psi Laughlin c'est le bon choix possible, il faut mettre le système dans une boîte ou ajouter à l'interaction un petit terme qui serait proportionnel au moment angulaire total J. Et à ce moment-là, ce que vous voyez, c'est que l'état de Laughlin, c'est l'état le plus compact dans ce dans cette famille d'états ici. Donc c'est l'état qui minimise l'énergie. Ces autres états-là vont être un peu plus en énergie à cause de ce terme ou à cause du confinement. Donc, ici, vous avez un calcul qui m'a aussi été fourni par Nicolas, qui vous montre l'efficacité de cette troncation. Donc c'est très rassurant, hein, on a un modèle simplifié, mais qui capture quand même pas mal d'ingrédients du problème, puisque si on garde un certain nombre d'harmoniques de V, on a bien la physique de la répulsion, dont on peut montrer que l'état de Laughlin est un état fondamental exact. Et ici, donc, dans ce calcul qui m'a été fourni par Nicolas, ce que vous voyez, c'est le gap qui sépare l'état fondamental du premier état excité en fonction du nombre de particules, donc 1 sur le nombre de particules, et qui montre que pour une interaction tronquée, on atteint la limite thermodynamique très rapidement. Donc cet Hamiltonien est efficacement décrit et plus simple à simuler. Et ici, vous voyez que pour l'interaction de Coulomb complète, on atteint la limite thermodynamique de manière plus délicate. Je crois que c'est à peu près ce que je voulais vous dire. Ici, il y a deux géométries. Ces deux calculs sont faits sur le tore avec deux géométries différentes. On reviendra à ces histoires de calculs sur le tore plus tard. Donc, Laughlin postule cette fonction d'onde. Évidemment, Laughlin postule cette fonction d'onde très peu de temps après l'apparition du papier expérimental de Tsu et collaborateurs, bien avant que Holden et Rezaei, ou pas mal avant que Holden et Rezaei, introduisent ces pseudo-potentiels et cette troncation de l'interaction. Et c'est assez intéressant de regarder dans les écrits de Laughlin comment il est arrivé à cette fonction d'onde. Donc j'ai extrait ici un petit morceau de sa biographie que vous trouverez sur le son autobiographie que vous trouverez sur le site de la Fondation Nobel. Et vous voyez que, et ça c'est un message que je voudrais sur lequel je voudrais insister, vous voyez que les calculs numériques ont en fait joué un rôle absolument essentiel dans sa proposition pour cette fonction d'onde. C'est pas quelque chose qui est juste sorti comme ça de son imagination. Vous voyez ici, il dit « Je me suis mis à résoudre le problème pour une et deux particules, et ensuite, sur l'ordinateur, 3, 4, 5. » Et en ayant vu le comportement pour un petit nombre de particules, j'ai commencé à essayer de deviner la forme fonctionnelle de la fonction d'onde en essayant de deviner une forme qui reste valable dans la limite d'un grand système. Donc, j'insiste sur ce point que un travail empirique, numérique, sur un problème permet de conjecturer un ansatz analytique très puissant qui a ouvert tout un domaine de recherche et que c'est quelque chose qui est sorti aussi d'un travail numérique. Donc, quand on est un théoricien ou une théoricienne, c'est bien d'avoir un bras droit et un bras gauche et de savoir faire à la fois les choses analytiques et les choses numériques. Ça s'alimente l'un de l'autre. Alors après, l'histoire continue. Une fois qu'il a eu postulé sa fonction d'onde, il dit qu'il va à la bibliothèque regarder le livre de Eugene Finberg, qui est un physicien de la matière nucléaire qui a donné d'ailleurs son nom à un prix la médaille Finberg pour le problème à Encore. Il ouvre ce livre et puis il voit que sa fonction d'onde peut être comprise comme un facteur de Jastrow, qui sont des fonctions variationnelles qui avaient été introduites en particulier pour le problème de l'hélium 4, sur lequel on va revenir un petit peu dans la suite de ce cours. Et voilà. My functional form I had guessed was here in front of my eyes. Donc voilà, je trouve que c'est assez intéressant de lire ce récit de la découverte de cette fonction d'onde. Alors, qu'est-ce que je vais vous raconter d'autre ? Oui, ce que je voudrais vous dire maintenant, c'est d'autres manières de regarder cette fonction d'onde. Et pour ça, on va faire un petit détour en donnant juste quelques rappels sur l'affaire Aronoff-Bohm. Bon, je suppose que pas mal d'entre vous sont familiers avec cette idée. Mais juste quelques rappels. Donc, quand on est en mécanique quantique et qu'on a un potentiel vecteur A qui dépend de la position dans un système, la fonction d'onde, au cours, disons, du déplacement de l'objet qu'on regarde entre deux points selon un certain chemin qu'on va appeler P, comme path, va accumuler une phase qui est donnée par E sur H bar, intégrale sur P de A dl. Donc d'où ça vient ça ? Ben, tout simplement de la substitution de Peyer's. P devient P moins QA et on intègre exponentielle hyper. Donc ça veut dire que sur une boucle fermée, donc si maintenant si je considère un chemin fermé C, la phase qui est accumulée, delta θ, c'est E sur H bar l'intégrale sur le contour fermé C de A dl. Vous pouvez bien sûr convertir en une intégrale sur la surface qui s'appuie sur C. Et vous voyez que ça, c'est donc 2pi. Donc le 2pi vient du fait que H bar, c'est H sur 2pi, et j'ai fait passer le 2pi au numérateur, fois le flux total qui traverse le contour C, divisé par le quantum de flux, dont je vous rappelle qu'il est H sur E. H sur E. Donc ça veut dire en particulier que si phi égale phi 0, j'ai accumulé une phase 2pi au cours de mon contour fermé, mais que si je prends un dispositif interférométrique avec, disons, deux particules qui se promènent autour d'un solénoïde qui produit la phase phi, eh bien, une mesure d'interférence peut me permettre de détecter le changement de phase. C'est ça l'effet Aronoff-Bohm. Alors, vous voyez que si je regarde la fonction d'onde de Loefflin, la fonction d'onde de Loefflin pour nu égale 1 sur m, elle contient le terme produit sur i moins i plus petit que j de zi moins zj puissance m. Et donc ça veut dire que si je fixe i et que je fais une rotation complète de j autour de i, je vais accumuler une phase delta θ qui va être 2πm. Autrement dit, c'est comme si j'avais attaché à chaque électron m quanta de flux et que j'avais finalement, alors si j'ai attaché m quanta de flux avec m impair, ça veut dire que j'ai transmuté mes fermions en bosons, puisqu'il y a un nombre impair de quantum de flux qui va être attaché à chaque électron, et donc je peux réécrire ma fonction d'onde comme le produit sur i plus petit que j de zi moins zj sur module de zi moins zj puissance m fois cette fois une fonction d'onde symétrique produit sur i plus petit que j de zi moins zj module puissance m fois exponentielle de moins somme de module de z carré sur 4. Donc ça, c'est une fonction d'onde symétrique. C'est donc une fonction d'onde pour n bosons. Et ça, c'est tout simplement le produit sur i plus petit que j de exponentielle de i θij, où θij est l'angle relatif entre les deux coordonnées des particules. Donc, si vous voulez, c'est l'insertion de m quantum de flux, qui, c'est la transformation de jauge, qui est singulière à l'origine, quand les particules sont en contact, qui insère M quantum de flux dans le système. Donc ça, c'est une image de la fonction d'onde de Laughlin qui fait apparaître la fonction d'onde de Laughlin comme une fonction d'onde pour des bosons composites. Avec M quantum de flux attaché à chaque particule. Quand on a fait ça, le système de bosons qui nous reste n'a plus, ne voit plus de champ magnétique, puisque quand on a attaché le nombre m quantum de flux par particule, c'est exactement n phi, le nombre de flux totaux dans le système, de quantum de flux totaux dans le système. Donc on a fait passer tout le champ magnétique dans la procédure d'attachement de flux. Et donc ce qui nous reste, c'est un gaz de boson qui peut éventuellement condenser. Et dans cette optique, l'état d'effet Hall quantique fractionnaire est vu comme la condensation de ces bosons composites. C'est aussi le point de départ de description effective de théorie des champs à la Chan-Simons pour l'effet Hall quantique fractionnaire. Enfin, au moins d'une description possible. Alors, il y a une autre manière de voir le problème, qui est cette fois non plus avec des bosons composites, mais avec des fermions composites. Et ça, c'est une manière de voir les choses qui a été introduite par les travaux pionniers de Jainendra Jain, et qui consiste non pas à attacher M quantum de flux à chaque électron, mais M-1 quantum de flux à chaque électron. Et donc on considère chaque particule comme une particule d'un électron physique auquel on a attaché M-1 quantum de flux. Tout ça, c'est juste des manipulations pour l'instant sur la fonction d'onde de Laughlin. Ça veut dire que la fonction d'onde de Laughlin, je vais l'écrire comme le produit sur I plus petit que J de module de ZI moins ZJ puissance M fois le produit sur I plus petit que J de ZI moins ZJ sur module de ZI moins ZJ puissance M moins 1, donc ça c'est la transformation de jauge singulière qui attache M moins 1 quantum de flux, fois le produit sur I plus petit que J de ZI moins ZJ exponentielle de moins produit sur I de exponentielle de moins ZI carré sur 4. Donc qu'est-ce que c'est que la fonction d'onde qui est ici? C'est la fonction d'onde, c'est le determinant Slater, vous reconnaissez ici le Van der Monde. C'est le déterminant de Slater de mes n particules. Ça, vous pouvez le voir comme un facteur de Jastrow. Et donc, l'image qu'on a maintenant introduite, c'est celle de particules composites qui restent maintenant des fermions, puisqu'on leur a attaché un nombre entier de quantum de flux, qui voient un champ magnétique réduit. Et si vous regardez quel est ce champ magnétique réduit, il est donné par le nombre total de quantum de flux dans le système, qui est donc nm, je l'ai décomposé en n fois m-1. Ça, c'est les flux que j'ai attachés à tous les n électrons, plus n. Et ça, c'est le nombre de quantum de flux résiduels dans mon système. Donc vous voyez que le nombre de quantum de flux résiduels qui agissent sur mes fermions composites, c'est exactement un quantum de flux par particule. Ce qui veut dire que le facteur de remplissage effectif de mon nouveau système de fermions composites est égal à 1. Donc dans cette image-là, en attachant M-1 quantum de flux à chaque électron, vous avez un système de fermions composites qui remplit exactement un niveau de Landau dans ce nouveau champ magnétique effectif et qui vit dans un état d'effet quantique entier dans ce champ magnétique réduit. Alors en fait, cette construction s'est avérée extrêmement utile pour comprendre d'autres fractions dans le système. Je ne vais pas trop parler des fermions composites, mais je voulais juste faire une sorte d'ouverture sur le sujet. Il y a tout un livre de Jayendra Jain qui est très très bien, qui s'appelle Composite Fermions, qui développe cette approche. Et elle s'applique en particulier très naturellement à la séquence de facteurs de remplissage qu'on peut écrire sous la forme P sur 2SP plus ou moins 1. Alors le S qui est ici n'est pas le S de tout à l'heure. Qui peut s'obtenir en attachant 2S, donc toujours un nombre pair de quantum de flux, à chaque électron. En particulier, si vous prenez 2S égale 2, c'est-à-dire que vous attachez deux quantums de flux à chaque électron, vous voyez que cette série devient les P sur 2P plus 1, ou P sur 2P moins 1. Et ça, c'est 1 tiers pour P égale 1, ensuite 2 cinquièmes, 3 septièmes, etc. Ici, vous avez 1. L'effet quantique entier, 2 tiers, 3 cinquièmes, 4 septièmes. Donc c'est ce qu'on appelle la série de Jain. Et toutes ces fonctions d'onde, toutes ces fractions, se comprennent bien comme dans cette image de fermions composites, avec mes fermions composites qui vivent dans un état d'effet Hall avec une fraction réduite. Donc si vous faites le calcul ici, ce que vous allez trouver, c'est que les n sur nu quantum de flux, hein, je vous rappelle que nu, c'est n phi, c'est n sur n phi, donc ça c'est bien le nombre n phi, a été décomposé en 2sn, je généralise le petit calcul qui était là, 2sn plus n sur nu étoile, qui va être la fraction, le remplissage effectif que voient mes fermions composites. Et donc vous voyez que nu étoile, pour la série qui est ici, 2s égale 2, c'est exactement égal à p. Autrement dit, mes fermions composites voient un champ magnétique réduit, b star sur b, qui est nu sur nu étoile, qui vaut 1 sur 2sp plus 1. Et puis l'autre série P sur 2P moins 1, elle s'obtient en changeant B star en moins B star. Alors ça, c'est aussi le point de départ d'autres descriptions effectives des théories des champs effectifs de la physique de grande distance en termes de théorie de Chern-Simons, mais distinctes de celles qui s'obtiennent à partir de la vision en boson composite. Bon, je ne vais pas vous parler plus de cette approche de fermions composites, mais là, on l'a un peu vu en manipulant la fonction de Laughlin de différentes manières. Donc, on a parlé d'état fondamental, et maintenant, on va parler d'excitation. Puisque les excitations de basse énergie d'un système, c'est quand même ce qui est le plus important pour comprendre les fonctions de réponse à une expérience physique. Donc, on veut encore plus comprendre la nature des excitations du système que l'état fondamental lui-même, je dirais. Alors, évidemment, ici, le système est un système incompressible, donc il y a un gap d'énergie. Pour les excitations, c'est pour ça que c'est un état qui est robuste. Et il y a deux types, donc un petit résumé très rapide, il y a deux types d'excitations, des excitations chargées, qui sont des quasi-particules, qui qui peuvent être des quasi-particules de charge positive ou négative, donc disons de type particule, de type trou ou de type particule. Et puis on a un mode collectif qui est un qu'on appelle le magnétoreton, dont je parlerai peut-être à la fin de ce cours, et sinon au début du suivant. Donc on va commencer par les excitations de quasi-particules. Et en fait, je vais plutôt vous parler du quasi-trou que de la quasi-particule. Je ne vais pas écrire explicitement les expressions pour la quasi-particule. Elles sont similaires en changeant Z en D sur DZ. Donc on va considérer la fonction d'onde suivante. Prenons la fonction d'onde de Loefflin. Et prenons un point qu'on va appeler état dans le plan complexe, fixe. Donc ça, c'est mon plan complexe. Je vais prendre une position état donnée. Et on va appliquer à cette fonction d'onde de Loefflin, produit de, sur tous les électrons, de Zi moins état. Donc ce qu'on a fait ici, c'est que on a empêché les électrons de s'approcher de ce point état en annulant la fonction d'onde. Donc maintenant, supposons qu'on fasse ça et qu'on mette le facteur m ici. Donc vous voyez que si état était une coordonnée dynamique, tout ce qu'on aurait fait dans le système, c'est de rajouter ou d'enlever une particule au système. Autrement dit, faire ça, ça consiste à créer un déficit d'un électron complet à la position état, ce qui veut dire que cette fonction d'onde doit posséder une charge plus ME. Pardon, plus E. Autrement dit, la fonction d'onde qui est là, que j'avais écrit tout à l'heure sans le M, elle doit consister à une excitation de charge E sur M. Autrement dit, cette fonction d'onde décrit une excitation de charge fractionnaire, E sur 3, par exemple, pour l'état nu égale 1 tiers. Alors, c'est évidemment un argument avec les mains, très très qualitatif. On peut lui donner un tout petit peu plus de chair en regardant de nouveau l'analogie de plasma. Donc, prenons cette fonction d'onde, ça c'est psi pour le quasi-trou, qui dépend donc des coordonnées des n électrons et de ma coordonnée fixe état où j'annule, qui annule la fonction d'onde au point état. Je peux considérer le potentiel de plasma UH que j'avais introduit tout à l'heure, qui dépend des Zi et de état, qui est lié au module carré de la fonction d'onde qui est là, et il peut s'exprimer de la manière suivante. Donc j'ai toujours le terme moins m carré somme de log de Zi moins Zj avec un module ici. J'ai toujours le terme m sur 4 somme de Zi carré. Et puis maintenant j'ai un terme moins m somme sur i de log de Zi moins état. Et donc vous voyez que ce terme qui est là, je peux l'écrire comme moins m carré. Je vous rappelle que dans cette image, chaque électron porte une charge dans le plasma qui est m, moins m carré fois 1 sur m. Donc ça veut dire que chaque électron du système interagit avec une impureté chargée de charge E sur m, et donc un déficit de charge qui est bien celui qui est ici. Donc c'est une autre manière de redire un peu la même chose dans l'analogie de plasma. Alors il y a un argument qui est très joli pour continuer à élaborer sur cette charge fractionnaire, qui est de reprendre l'argument de Loefflin pour l'effet Hall quantique entier, dont je n'avais pas parlé au premier cours, mais dont je vais parler maintenant, qui consiste à faire une expérience de pensée de pompage de charge Mais pour ça, on va considérer une géométrie particulière du système, dans un premier temps, qui est une géométrie de disque avec un vide au milieu. C'est une figure que j'ai extraite toujours du séminaire de Girvin. Et donc, c'est une géométrie qu'on appelle quelquefois la géométrie de Corbinot. On a un disque avec éventuellement un trou au milieu, et dans ce trou, on fait passer un flux phi. Et on va considérer l'expérience de pensée suivante. On part donc de cette géométrie de disque avec mon flux qui passe au milieu, et on va considérer que ce flux dépend du temps. Je peux faire ce truc tout petit et considérer un certain contour sur ce disque. On va faire passer le flux phi de t de 0 à t égale 0 jusqu'à 2π à la fin du processus. Donc je peux faire ça en introduisant dans le système, donc si vous voulez, je mets un solénoïde infiniment fin qui correspond à un potentiel vecteur qui va être phi de t sur 2π r eθ. Donc eθ, c'est le vecteur ici, de sorte que la circulation de ce potentiel vecteur sur mon contour de rayon R soit égale à φ. Donc E sur H bar, l'intégrale sur mon contour de A dl, à la fin du processus, donc au temps final, va être égal à E sur H bar phi 0, qui n'est autre que 2π. Autrement dit, je n'ai pas changé le flux que j'ai inséré au total, et 2π peut être enlevé du système par une transformation de jauge. Autrement dit, pour résumer ce processus, ce qui se passe, c'est que H de phi de t, donc j'ai un hamiltonien H qui dépend d'un flux qui dépend du temps. Et parce que le flux total que j'ai inséré est un quantum de flux, H de phi 0 doit être relié à H de 0 par une transformation unitaire. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire que les deux hamiltoniens ont le même spectre, mais ça ne veut pas nécessairement dire... Je fais ça de manière adiabatique, c'est-à-dire sur des échelles de temps qui sont beaucoup plus lentes que h-bar sur le gap, disons. Les deux hamiltoniens sont reliés de manière unitaire, mais ça ne veut pas forcément dire que je reste dans le même état au cours de mon processus, c'est-à-dire que je peux me retrouver à t égale tf, dans un état qui doit être un état propre de h de 0, mais qui n'est pas forcément l'état fondamental de h de 0. À t égale 0, on part dans l'état fondamental psi 0 de h de 0. À t égale tf, on se retrouve dans un nouvel état qui doit être un état propre de h de 0, mais pas nécessairement son état fondamental. Donc regardons quel état ça peut être dans cette géométrie avec un simple raisonnement électrostatique. Et on va se placer dans le cas où je suis dans un état d'effet Hall fractionnaire avec une conductivité de Hall sigma xy qui est complètement quantifié, mais sans dissipation. On a vu que dans ce cas-là, ça on l'avait vu au cours 1, sigma xx, c'est rho xx, c'est 0. Sigma xx égale sigma xy égale rho xx égale rho yy. égale 0. Je vous rappelle que quand il y a une conductivité de Hall, ces deux propriétés peuvent être simultanément correctes. Donc dans cette géométrie-là, dans ce cas, le courant est purement transverse, on avait vu ça au cours 1, et je vais utiliser tout simplement la loi de l'induction, c'est-à-dire que quand j'intègre le champ électrique, donc mon flux dépendant du temps crée un champ électrique dépendant du temps, et ce champ électrique dépendant du temps, il vérifie intégrale de EDL égale moins dφ sur dt, loi de Lenz. J'intègre cette chose-là, donc j'intègre cette chose-là sur mon contour gamma, ça va me donner 2 pi r e égale moins phi point e theta. J'utilise cette propriété-là, la densité de courant J, c'est sigma xy e fois le vecteur unitaire z. Autrement dit, sigma xy j, donc le courant j, il est selon le vecteur er, il est radial, er il est comme ça, et il est donné par moins er e Donc, qu'est-ce qui va se passer physiquement? Je fais varier mon champ phi de t. Je considère un contour donné ici. Et à cause du champ électrique, il va y avoir de la charge qui va passer d'un côté du contour à l'autre côté du contour. Et pour calculer combien il y a de charge qui va être transférée, j'utilise la relation de conservation de la charge, d rho dt plus divergence de j égale 0, que je peux intégrer pour calculer la charge totale qui rentre dans mon contour. Je vais trouver que sigma xy, en utilisant ça, d phi dt est égal à dq dt. Autrement dit que ma charge totale qui a pénétré dans mon contour Q qui a pénétré dans mon contour, c'est sigma xy phi 0 à la fin du processus. Donc sigma xy pour nu égale 1 sur m, c'est e carré sur h fois 1 sur m, fois phi 0 qui vaut h sur e, et donc vous voyez ici que je trouve e sur m. Autrement dit, ce que ce processus doit avoir fait, c'est de créer une quasi-particule. Mon système reste neutre, bien sûr, je n'ai pas introduit de charge dans le système, j'ai juste transféré de la charge, donc j'ai dû créer un trou et une particule de part et d'autre du contour, qui ont respectivement une charge, moins E sur M et plus E sur M, qui est une manière élégante de conclure qu'il doit y avoir des excitations de charge fractionnaire E sur M dans le système. Et vous voyez que ça, c'est un raisonnement très général, parce que finalement, il dit que dès que la conductivité de Hall est quantifiée de manière fractionnaire, il doit y avoir des excitations de charge fractionnaire dans le système. Donc ça, c'est dans la géométrie annulaire, qui est là, ou cylindrique, si vous voulez, qu'on appelle aussi la géométrie de Corbino. Entre parenthèses, Corbino, c'est un physicien italien très important, pas seulement parce qu'il a inventé la géométrie de Corbino, parce qu'en fait, il a créé toute l'école de physique théorique en Italie et a en particulier été le le mentor de Enrico Fermi dans ses jeunes années. Donc ça, c'est dans la géométrie annulaire. On va voir un petit peu après ce que ça implique dans une autre géométrie. Et on regardera un petit peu après la géométrie du tore. Où évidemment, dans la géométrie du tore, on peut créer un quasi-toit et une quasi-particule, mais ils vont finir par se rencontrer et s'annihiler, à la différence de ce qui se passe ici, où il y a un trou dans le système. Il y a clairement une distinction entre ce qui se passe à gauche et ce qui se passe à droite du contour. Et donc, les choses dans le cas de la géométrie du tore doivent se passer de manière différente, puisque cette quasi-particule et ce quasi-trou vont s'annihiler. On doit être dans une situation où, à la fin du processus, on se retrouve dans l'état fondamental de H0. Mais on verra que un argument simple permet de voir que ça ne peut pas être le même état fondamental que celui dont on est parti. D'où la conclusion que, sur le tore, l'état fondamental doit être en fait dégénéré et que c'est une propriété qui est intrinsèquement liée à toutes ces propriétés, quantification fractionnaire des excitations, dégénérescence de l'état fondamental qui dépend de la topologie du système, et on va le voir ensuite, statistiques fractionnaires des excitations, sont toutes liées entre elles. Mais avant de faire ça, comme ça c'est quand même une conclusion assez frappante, que la charge des excitations est fractionnaire, je voudrais vous montrer que ce n'est pas juste une élucubration théorique, mais que c'est quelque chose qui a été expérimentalement vérifié. Donc ça, c'est des très belles expériences datent de la fin des années 90, 97 précisément, qui ont valu à Glatier et Reznikov le prix Europhysics en 99, je crois. Donc, ce sont des expériences qui ont été simultanément faites au CEA de Saclay, au SPEC, par Samina Dayar, Glatley, et Jean et Étienne, et au Weizmann, dans le groupe de Moti Heibloom. Donc vous voyez ces deux articles qui sont essentiellement indépendants les uns des autres. Et quelle est l'idée de ces articles? L'idée, c'est de regarder le bruit de courant, donc le bruit de grenaille de courant dans une jonction, le bruit qui va être dans une approche de Landauer, j'avais décrit ça dans un cours il y a quelques années, c'est quelque chose qui est proportionnel au coefficient de transmission fois 1 moins le coefficient de transmission. Je ne vais pas vous faire une théorie du bruit de grenaille ou shot noise, mais qui est proportionnel à la charge des particules qui sont transférées au cours du processus de tunneling. Et donc, j'ai extrait ça d'un très joli cours de Christian Glatley, toujours dans ses séminaires Poincaré, où il montre qu'il y a deux régimes. Donc on prend deux gouttelettes d'effet Hall. Le vrai device est en fait un peu plus compliqué. Je ne suis pas sûr de l'avoir vraiment montré là. Il y a un état 2 tiers dans l'expérience de Saclay, un état 1 tiers proche de l'état 2 tiers. Mais enfin, peu importe les détails, le concept de l'expérience, c'est vraiment ça. J'ai deux gouttelettes d'effet Hall quantique fractionnaire 1 tiers. Et il y a des états de bord qui conduisent le courant. Je n'ai pas encore parlé d'états de bord dans ce cours, on en parlera un peu la prochaine fois. Il y a deux régimes de tunneling. On peut considérer soit une barrière très haute entre les deux gouttelettes, une barrière tunnel très haute. Dans ce cas-là, le courant qui est conduit par les états de bord va être essentiellement rétrodiffusé vers l'arrière, ou backscattered en anglais. Donc on va avoir un régime de ce type et un régime de ce type. Et ce qui va transiter dans la jonction dans ce régime, c'est tout simplement un électron. Donc, la formule de shot noise, c'est que l'amplitude, la valeur du bruit de grenaille est donnée par la charge fois cette expression ici, qui est en gros proportionnelle à l'intensité du courant. Et dans cette limite, comme c'est des électrons qui transitent, eh bien, on va voir la charge E des électrons. Par contre, si on se place dans un régime où on a un faible taux de backscattering, donc pour une barrière beaucoup plus faible, eh bien, on va pouvoir transiter directement entre les deux états d'effet Hollin tiers. Et là, ce qui va se passer, c'est qu'on va mesurer le bruit de grenaille des quasi-particules de Laughlin. Donc, on doit trouver exactement la même formule, mais avec E remplacé par E sur 3. Donc, il faut se placer dans cette limite de faible backscattering et mesurer le bruit de grenaille de la jonction. Bon, c'est plus facile à dire quand on est un théoricien qu'à faire. Voilà une vue un petit peu plus, encore schématique, mais du device dans lequel ils ont mesuré ça. On mesure à la fois le courant transmis, donc dans leurs expériences, on mesure à la fois le courant transmis dans la jonction et le courant rétrodiffusé. Et voilà les résultats. Donc ça, c'est extrait à gauche de l'expérience de Saclay et à droite de l'expérience du Weizmann. Et vous voyez un fit à ce qu'on attend pour une charge fractionnaire E sur 3 par rapport à ce qu'on attendrait pour une charge électronique E. Donc vous voyez que les résultats sont en très bon accord avec une charge E sur 3. Et donc c'est une démonstration expérimentale de l'existence de quasi-particules de charge fractionnaire dans le système. Donc j'insiste sur le fait qu'il s'agit de quasi-particules. On n'est pas en train de dire qu'il existe des nouvelles particules élémentaires qui ont une charge E sur 3. On vit dans un monde à deux dimensions qui vit dans son gaz d'électrons. Donc c'est le vide des gens qui habitent dans ce monde, c'est l'état fondamental de Laughlin, c'est ça leur vide. Et les excitations dans ce monde-là sont des excitations qui ont éventuellement une durée de vie substantielle, qui ont une charge E sur 3. Et les gens, il y a un joli paragraphe dans le cours de Girvin dans ce séminaire Poincaré qui dit que on peut imaginer que les gens qui vivent dans ce monde construisent des gros accélérateurs pour essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe à haute énergie, et ils découvrent, aux surprises, qu'on voit les charges E, qui sont les charges électroniques. Donc voilà, du point de vue de des gens qui vivent dans ce monde bidimensionnel du device de l'effet quantique, les excitations naturelles ont une charge sur 3, mais bien sûr si on regarde à notre échelle, les particules élémentaires n'ont pas une charge sur 3. Est-ce que j'ai le temps de vous dire un petit peu quelque chose sur la géométrie du tore? Je vais peut-être quand même garder ça pour la fois prochaine parce que ça fait quand même pas mal pour aujourd'hui. Je vais juste peut-être annoncer le résultat. Donc, quand on regarde ce même phénomène, non pas sur la géométrie de Corbino, mais sur une géométrie torique, l'idée c'est qu'on peut faire ce processus d'insertion de flux qui cette fois va être l'insertion de flux comme je l'avais fait pour l'argument de Thouless au cours 1, qui va correspondre à une insertion de flux, par exemple, ici, dans, vous vous souvenez, on avait introduit phi x et phi y dans les deux cycles du tore pour donner l'argument de Thouless, Thouless et al, de la quantification de la conductivité de Hall. Donc ici, c'est ça qu'on va faire en faisant varier ce flux. Donc là, on peut créer une quasi-particule et un quasi-trou, mais ils vont en quelque sorte s'annihiler. Donc ça veut dire qu'en géométrie du tore, l'état fondamental de l'hamiltonien H de 0 doit être dégénéré, de sorte que ce processus d'insertion de flux vous fait passer d'un état fondamental à un autre. Et donc j'expliquerai ça un peu plus en détail la prochaine fois, en essayant de montrer, au moins par des arguments simples, que dans le cas par exemple nu égale un tiers, sur le tore, il y a effectivement trois états fondamentaux dégénérés, et que ce processus d'insertion d'un flux vous fait passer d'un état à un autre état. Vous rajoutez un autre flux, ça vous fait passer au troisième état, et c'est seulement au bout de trois insertions d'un quantum de flux qu'on est revenu à l'état fondamental de départ. Donc l'existence, le fait que la dégénérescence de l'état fondamental dépende de la variété, du genre en fait, de la variété sur laquelle on considère le problème, on est vraiment au cœur de la topologie, c'est quelque chose qui a été appelé l'ordre topologique de ces systèmes, en particulier par Wen. Et je rentrerai un petit peu plus dans ces détails la prochaine fois. Je vous parlerai aussi la prochaine fois de l'excitation neutre, dont je n'ai pas parlé, qui est un mode collectif, et comment on peut en donner une approximation par une procédure variationnelle qui ressemble beaucoup à ce qu'on fait dans le cas de l'hélium 4 pour déduire le mode de Roton. Et ça, c'est un article de 85 de Gervin, McDonald et Platzmann, suivi également d'une observation expérimentale par diffusion de la lumière dont je parlerai aussi un petit peu la prochaine fois. Voilà, je vais m'arrêter là et on reprend à 11h30 avec le séminaire de Nicolas Regnault.
Collège de France, le savoir en illimité. Retrouvez tous nos contenus audio et vidéo sur notre site collège-de-france.fr, les plateformes de podcast et nos chaînes YouTube.